de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama. Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama. Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue. Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma. Alors on le fait au travers de chroniques de films que nous avons vus. Et puis parfois on vous propose des interviews, ce sont des réalisateurs, des acteurs. Et puis parfois on fait des blind tests. Et aujourd'hui c'est une émission avec un blind test. Il sera à propos de la filmographie de Léa Seydoux, puisqu'elle est actrice. Elle joue dans le film Silent Friend, le dernier film de la réalisatrice hongroise Ildikó Egyedi. Alors elle a un tout petit rôle, mais elle a quand même une filmographie conséquente, donc ça permettra d'écouter 5 extraits. Bonjour Guillaume, toi tu as 2 films aujourd'hui.
Oui, Plus fort que moi et L'ultime héritier.
Et puis toi Sophia, tu as un film.
Oui Vincent, je vais vous parler de Yellow Letters du réalisateur Iker Chatak.
Mais nous commençons par une immersion dans les années 80 avec un adolescent atteint du syndrome de Gilles de la Tourette qui se bat pour être reconnu au-delà des préjugés. C'est I Swear, plus fort que moi.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Je jure devant Dieu Tout-Puissant
de dire toute la vérité.
Gros connard!
Alors on dit souvent que les anglo-saxons sont forts pour les drames historiques et les feel-good movies. Vous savez, ce genre de film qu'on regarde soit en amoureux un soir de grand vent, soit sous la couette quand ça va pas bien. On sait que le chemin sera long, mais on va voir des gens qui souffrent bien plus que nous et on sait que ça va bien se terminer. Alors du moins, c'est tout ce qu'on espère, surtout quand, comme pour I Swear, version originale de Plus fort que moi, on a la mention inspirée de faits réels directement imprimée sur l'affiche et rappelée en ouverture du film. Alors I Swear veut dire je jure, alors pas dans le sens judiciaire, mais dans le sens plus prosaïque, car ce qui est plus fort que moi, ou que le personnage principal, pour reprendre le titre en français, c'est tout simplement une saleté de maladie qui fait autant rire par défaut qu'elle est profondément handicapante, le syndrome de Gilles de la Tourette.
C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette.
Entre mon grand. Je m'appelle Dottie.
Tu veux crever d'un cancer?
Alors notre histoire débute dans les années 80, dans un milieu très populaire écossais, où le jeune John Davidson entre dans une nouvelle école. Alors la grande nouveauté de cette année n'est pas la rigidité de ses professeurs, ni du milieu plus huppé qu'il essaie d'intégrer, mais qu'il a les premiers signes d'une maladie qui va grandir et lui bouleverser totalement son quotidien. Jour après jour, John découvre impuissant que son corps le lâche et qu'il ne peut plus avoir confiance en lui. Il ne le sait pas encore, mais il va devoir grandir avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue et du grand public et des spécialistes. Alors le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas ce qu'on peut appeler un handicap invisible. Au contraire, c'est une malédiction qui va entraîner incompréhension et stigmatisation de son entourage avant que, aidé par ceux qui iront au-delà de leur petit confort et appréhension, vont l'aider à transformer le désespoir en détermination. Plus fort que moi est un récit de lutte, la cartographie d'un parcours miné et semé d'embûches qui va devenir, grâce à l'acharnement et à l'espoir, un combat personnel et collectif pour être reconnu tel qu'il est, au-delà des préjugés.
C'était un tic ?
Bah oui, à ton avis.
Et ça, c'est moi qui fais le con.
Quand t'es occupé, tu vas beaucoup mieux. Ce serait bien que t'aies un boulot.
Je t'aurais jamais pris.
On a besoin de 200 chaises pour un spectacle pour enfants. Ou une représentation scolaire.
C'est pédophile !
Si vous voulez un exemple de « c'était pas mieux avant », en voici un bon avec plus fort que moi. Lorsque viennent frapper les premiers symptômes de la maladie, c'est un mur vénéneux d'incompréhension qui vient murer le pauvre John. Sa seule ouverture possible d'être reconnu au football par Halo, une tentative de drague d'une camarade de classe se transforme en fiasco, ses professeurs s'acharnent sur lui et son père, excédé, décide de quitter sa famille en laissant John, mais aussi sa femme et ses 3 autres enfants. En guise de clôture et de ses premiers pas dans la maladie, John, désespéré, fait même une tentative de suicide. suicide tant il a compris qu'il n'a aucune place en ce monde qui, non seulement ne cherche pas à le comprendre, mais ne veut carrément rien avoir avec lui. Alors cette première demi-heure est particulièrement cruelle, hein, sonne d'une manière d'autant plus violente quand on sait tous les besoins et les bienfaits qui découlent d'une prévention de certains troubles à l'adolescence. Et il n'y a rien de pire que d'être lâché dans un grand bain d'incompréhension doublé d'intolérance crasse alors qu'on n'y peut rien.
Ce syndrome n'est pas reconnu par les autorités médicales.
Je veux qu'on me dise qui simulerait cette maladie.
Hé, moi ! J'emmerde la reine !
Ça peut sembler étonnant hein, chez des gens normalement formés, hein, mais si un garçon en apparence gentil se met à se contorsionner comme s'il recevait des décharges électriques et s'excuse de crier des insultes ou des insanités, bah, il vaut mieux se demander ce qu'il se passe hein, plutôt que de l'ostraciser. Ce sera tout le combat mené par le véritable John Davidson hein, à la résilience et à l'humanité bouleversante. Son parcours a déjà fait l'objet hein, d'un documentaire pour la BBC en 89, hein, John is not mad de Valérie Kay. Dans la vie comme dans le film de Kirk Jones, hein, John Davidson a été décoré par la reine Elisabeth II, et certains plans du film reproduisent carrément à l'identique bah, les passages du documentaire. Kirk Jones, justement réalisateur absolument transparent de, entre autres, Nanny McPhee, trouve ici un sujet pour briller et faire briller sa mise en scène. Car si le film doit beaucoup à ses comédiens remarquables, dont l'interprétation récompensée hein, au BAFTA hein, de Robert Amarayo, bah, sa réalisation élégante arrive à fuir avec bonheur hein, tous les clichés du mauvais film d'auteur qui se dressait devant lui. Plus fort que moi est peut-être un étonnant feel-good movie, mais il fait vraiment du bien après avoir très mal commencé. Bah, un peu à l'image de la vie de John Davidson.
Eh bien, des films sur le syndrome de la Tourette, je n'en ai pas vu, sauf un qui évoquait cette maladie. C'était The Square, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, le film de Ruben Östlund, où au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est atteint du syndrome de la Tourette, qui assiste à une conférence sur l'art. Dans l'assistance, il y a non seulement l'acceptation, mais la gêne aussi entremêlée. Enfin, c'est une séquence, en tout cas, assez intéressante. Qui est bon, autant critique que drôlatique voilà, dans ce film fabuleux de Square. En tout cas, là, nous parlions de toute autre chose. C'était plus fort que moi et c'est en salle depuis le 1er avril. En Turquie, un couple est révoqué pour ses idées et voit son engagement politique mettre son mariage à l'épreuve. Nous parlons de Yellow Letters.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre. Moi.
Dans son nouveau film, Ours d'or au Festival de Berlin, Ilker Çatak opère un virage formel radical après La salle des profs en 2023, son premier long métrage distribué en France. Après l'étau qui se resserrait jusqu'à l'asphyxie dans ce huis clos en 4 tiers, il ouvre ici complètement l'image avec Yellow Letters. On reste certes dans le cadre du thriller, mais le réalisateur passe d'un format presque carcéral, centré sur une protagoniste unique dans une institution scolaire, à quelque chose de beaucoup plus ample. Les corps circulent dans ces plans en cinémascope, les espaces s'étirent pour mieux contraindre les trajectoires plurielles. Avec ce changement d'échelle, la tension elle aussi se transforme, elle n'est plus un point de compression permanent, mais une onde plus diffuse, plus insidieuse et peut-être encore plus inquiétante. Le cinéaste scrute ici la Turquie, pays d'origine de sa famille, où il a grandi en partie, et s'inspire des purges menées là-bas entre 2016 et 2019 notamment. Un film pamphlet qu'il n'a pas pu tourner sur place. Le film suit Aziz et Derya, un couple d'artistes turcs, parents d'une ado, Ezgi. Lui est professeur à la faculté d'Ankara, mais aussi dramaturge, elle, comédienne vedette du Théâtre National où elle joue la dernière pièce de son mari. Alors que le film s'ouvre sur la première, triomphale hein, de leur dernière pièce, leur vie bascule brutalement. Aziz reçoit à l'université une lettre jaune annonçant sa révocation. Derya, elle aussi, est frappée par une même missive au théâtre. Est-ce lié pour Derya à son refus de poser avec le gouverneur après la première? À des propos tenus sur scène? Est-ce dû pour Aziz à ses étudiants incités à manifester? Rien n'est parfaitement clair, les accusations sont floues, démesurées, mais les sanctions, elles, sont immédiates. Privés de leurs fonctions, surveillés, ils quittent Ankara pour Istanbul avec leur fille, où ils trouvent refuge chez la mère d'Aziz. Une forme de mort civile s'installe, encore vivant, mais juridiquement, socialement, professionnellement, effacées. Ces lettres d'un jaune couleur sang deviennent le symbole d'un basculement liberticide.
Nasıl kalsın hocam sağ?
Alors, malgré l'ambition de film pamphlet, une double dynamique permet au cinéaste d'éviter le tract. D'abord, rien n'est frontalement nommé. Le nom d'Erdogan n'est jamais prononcé. On a une rectrice sans visage, un gouverneur sans nom, aucun discours explicite. Les personnages parlent simplement de la situation. Mais tout est là. Les institutions se durcissent, les droits se restreignent et des citoyens intégrés deviennent suspects au point de voir leurs existences ébranlées. Ensuite, le film est entièrement tourné en Allemagne. Berlin dans le rôle d'Ankara, Hambourg pour Istanbul. Un choix qui crée un léger décalage, d'autant plus glaçant. C'est ce qui donne en fait au film sa portée universelle. Ce qui arrive à Aziz et Deria pourrait arriver ailleurs, chez nous, partout où certaines idéologies, celles d'extrême droite en premier lieu, gangrènent l'espace public. Le public, mais l'intime aussi. Car le choix du film, le choix fort du film, consiste à se concentrer sur la manière insidieuse dont ces décisions politiques répressives vont broyer la vie privée de ce couple. On assiste progressivement à l'érosion de leur unité familiale. La perte de statut, l'exil et cette pression constante viennent fissurer leurs relations. Les rapports de pouvoir se déplacent et se révèlent dans l'intime. Qui tient encore debout? Qui dépend de qui? Qui a le courage de se battre? Et qui sacrifie quoi? Il y a presque quelque chose de Marriage Story dans cette autopsie du lien amoureux, sauf qu'ici le conflit est injecté de l'extérieur. Et Çatak s'appuie sur un duo d'actrices turques particulièrement intense, Tansu Bişer pour Aziz et Özgü Namal qui joue Deria, dont les dialogues secs ne nous laissent en deux heures de métrage aucun échappatoire.
Sadece geçici bir süre. Acılığım kocaman olmuş bu. Bu süreç netleşene kadar. Yani illaki döneriz Ankara'ya tabii.
Alors oui, Yellow Letters est peut-être moins suffocant que La Salle des Profs dans son dispositif, mais il n'en est pas moins oppressant. Sa mécanique s'inscrit dans une excellente mise en scène de l'usure, troquant une tension immédiate pour une forme de contamination plus lente, presque aussi organique que dans Alpha de Ducournau. Un film qui exploite son très vaste cadre pour mieux montrer comment tout peut lentement s'y refermer.
Yellow Letters, ce film est en salle depuis le 1er avril. Dans un jardin botanique, un arbre traverse les époques et accompagne plusieurs destins de 1908 à aujourd'hui. Nous parlons de Silent Friend.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Il y a des films qui exigent du spectateur une attention dans le même temps qu'un lâcher-prise. Cela tient autant à la forme qu'au sujet. Et c'est le cas pour le dernier film d'Ildiko Eniedi, à qui l'on doit les très remarqués Mon 20e siècle, Corps et âme, qui a été Ours d'or, et L'histoire de ma femme, présenté il y a deux ans en compétition à Cannes. Alors, si l'on compare son nouveau film avec le drame qui mêlait Léa Seydoux et Gis Naber, on remarquera vite qu'elle quitte cette fois-ci la narration classique pour un récit éclaté entre trois histoires. Alors il y a d'abord celle de Tony, incarné par Tony Leung, le comédien de In the Mood for Love, alors qui est d'ailleurs dans un de ses premiers rôles en dehors d'un film asiatique. Donc là, il interprète un chercheur chinois en neurosciences qui travaille sur la pensée des enfants et qui est invité à l'université de Marbourg en Allemagne en pleine période de Covid. Le voilà confiné avec un rustre gardien qui, semble-t-il, lui veut d'abord du mal. Et puis il y a aussi l'histoire de Grete, incarnée par la comédienne Luda Wedler, qui a remporté le prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir au Festival de Venise. Elle nous replonge, elle, à la fin du 19e siècle, ou au début du 20e d'ailleurs, je ne suis plus très sûr, dans cette même université, et elle a la permission de rejoindre un cycle de recherche, mais elle est auditionnée par des vieux professeurs machistes, la voilà qui se rabat sur la photographie naissante. Toute cette séquence est tournée en noir et blanc, élégant. Enfin, il y a une troisième période dans les années 70 qui mêle Hannes, un étudiant venu de la campagne qui rencontre une jeune étudiante à l'esprit libre. Et cette fois-ci, eh bien, les images sont tournées dans un grain typique des années 70. Le point commun entre tous ces personnages, eh bien, ils étudient tous à leur manière le végétal.
What if they observe us the same way we observe them?
Commençant à sentir l'ennui, le chercheur Tony tombe sur les recherches botaniques menées par une Française, interprétée par Léa Seydoux. Il décide d'appliquer le protocole qu'il utilise avec les enfants pour examiner un ginkgo biloba majestueux qui prend place dans le jardin de l'université. Un arbre millénaire qui fait le lien entre tous ces personnages qu'il approche un moment ou un autre. Le scientifique découvre alors une forme de pensée au travers d'éléments qui sont figurés par des arcs numériques semblables à des racines entremêlées. La fille exclue de l'université, qu'on a vu donc, au début du XXe siècle, cette fille exclue par les hommes, elle s'emploie donc à photographier les plantes et notamment une graine de ginkgo biloba. Quant à l'étudiant Hannes qui avoue son dégoût de la nature, lui le campagnard, il se prend à nouer une relation avec un géranium. Et oui, les expérimentations qu'il fait ont de quoi surprendre. Chaque époque est traversée par des enjeux de son temps. L'arrivée des femmes dans le monde de la recherche, longtemps quand même avant Marie Curie, la liberté et la contestation étudiante pour les années 70, et puis le partage culturel poli pour notre époque, contrarié quand même par la pandémie. Chacun des personnages qui nous est montré traverse une période qui l'isole du reste des hommes. L'univers des interactions devient plus riche avec l'arrivée dans la vie de ces personnages bien d'une relation avec le végétal et leur soif de connaissance. La réalisatrice hongroise est bien loin de glorifier la nature. En fait, c'est pas du tout le thème de ce film, c'est pas son propos, il n'y a pas de morale, ni bien ni mal, il y a au contraire beaucoup de mystère au travers de la connaissance que l'on peut tirer de ces plantes et de ce grand ginkgo biloba qui vient clore d'ailleurs le film d'une manière alors absolument majestueuse. On a là de belles images. Nous sommes là dans une représentation du vivant abordée avec une démarche cinématographique, avec un changement de couleurs, de grains et d'images, des récits plus ou moins précis et peuplés avec plus ou moins d'enjeux. Silent Friend est une expérience alors pour le coup sensible, un moment suspendu où l'on se surprend à envisager le monde d'une autre manière. C'est un film vraiment précieux et c'est un film très remarqué lors du Festival de Venise où il n'a pas il a remporté le prix de la presse et il a remporté aussi donc le prix d'interprétation féminine, mais il n'a pas eu le grand prix alors qu'il était tout de même pressenti. Alors ce film, Silent Friends, nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie de Léa Seydoux, alors qu'il y a vraiment un tout petit rôle, parce que en plus, le rôle qu'elle a, elle le joue au travers d'une liaison Zoom. Donc, elle est carrément en vidéo. Voilà. Mais ça va quand même nous donner l'occasion d'écouter 5 extraits de sa longue filmographie. Premier extrait.
Ça fait combien de temps que tu couches avec lui?
Je couche pas avec lui.
Ça fait combien de temps que tu mens?
Je couche pas avec lui. On s'est embrassé un soir bourré.
Alors pourquoi tu pleures?
Parce que je regrette.
Me prends pas pour une conne.
Je te jure que c'est ça.
Me mens pas.
Je te promets.
Ça fait combien de temps que tu couches avec lui?
Je suis jamais sans...
Combien de fois t'as couché avec lui? Dis-le-moi. Depuis combien de temps tu mens? Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne?
Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne.
Dégage ici. Allez, tu dégages. Je veux pas d'une petite menteuse ici, tu dégages. Tu fais tes affaires et tu dégages. Allez hop. Dégage !
Quel film ? Et c'est trouvé.
C'est La vie d'Adèle d'Abdel Latif Kechiche.
Oui, double prix d'interprétation à Cannes pour non seulement Léa Seydoux, mais aussi Adèle Exarchopoulos qui lui donne la réplique dans ce film de Abdel Latif Kechiche de 2013, adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot, qui met en scène donc Adèle, une lycéenne qui tombe amoureuse d'une jeune artiste. Elles vivent ensemble, grandissent mais se séparent. Voilà tout ce qu'on peut dire déjà sur ce film. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Léa Seydoux.
C'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Ces journalistes sont des cons.
Mais enfin, Lou, on fait la même chose tous les jours.
Bah non, on fait pas la même chose. Tu rigoles ou quoi? Papa est une consoeur. Regarde ce titre immonde. Non.
Bon, écoute, de toute façon, maintenant on est là. Hein.
Ah oui, on est là, avec toute la télé française qui t'attend dehors.
Non, pas de photo.
Pas de photo. Je t'avais dit de venir discrètement en France.
Oh, écoute, Lou, faut savoir, hein.
Quoi?
Je veux dire, tu me dis tout et son contraire.
Comment ça?
Bah, je sais pas, enfin, je veux dire, oui, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir la famille, il faut que je m'excuse. Faut savoir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me cache?
J'ai pas dit ça.
Alors, comme pour le film précédent, la séquence est beaucoup plus longue, mais il a fallu couper.
C'est France, de Bruno Dumont.
Et oui, film de 2021, où là, c'était Blanche Gardin, qui était sa directrice de communication, hein, qui lui donnait la réplique. Journaliste star, France demeure, c'est son nom, hein, voit son image publique vaciller. Après un accident entre médias et vie privée, elle perd peu à peu pied. 138 000 entrées en France seulement, hein, pour ce film. Allez, c'est un nouvel extrait pour ce blind test consacré à la filmographie de Léa Seydoux.
On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose?
Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions, tout ça.
Vous vivez seule ici?
Avec une amie. Marie? Marie, viens une fois, s'il te plaît.
Et vous savez ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, ou bien?
Bah, d'après ce que j'ai vu, c'est là que les fils électriques, ils ont commencé à prendre feu, tout ça.
Bonjour.
Ouais. C'est la police de Roubaix.
Et y a jamais eu de problème ici, avec la maison brûlée? Enfin, des engueulades, ou... Y a personne qui habite dans cette maison?
Ah ben non. Enfin, c'était en travaux, d'après ce que la propriétaire, elle nous a dit.
Si, des engueulades, quoi. Enfin, des trucs banals, des crottes de chien en face de la porte ou quoi.
C'est votre chien?
C'est nos chiens, oui. Non, pas de vraies engueulades, non.
Mais il y a déjà eu des soucis avec des jeunes ici qui venaient dîner.
Oh bah oui, des jeunes qui viennent foutre la merde, il y en a plein, ouais.
Alors on sent un peu le naturalisme de l'interprétation, c'est trouvé.
C'est Roubaix une lumière de Desplechin.
Oui, avec le fabuleux Antoine Reinhardt qui donne la réplique à Léa Seydoux et Sarah Forestier dans cette séquence. À Roubaix, un commissaire qui lui est interprété par Roche Dizem enquête sur le meurtre d'une vieille femme. Deux voisines deviennent les principales suspectes et Léa Seydoux est l'une d'entre elles, donc dans une affaire sombre, quasiment 400 000 entrées en France, hein, pour ce film qui a plutôt bien marché pour un Desplechin. Allez, nouvel extrait pour ce blind test.
Qu'est-ce que t'as envie de faire?
Je sais pas, rien.
Tu veux pas sortir?
Ta femme est pas à Paris, alors tu veux bien sortir.
T'as pas envie?
On est bien là, non? On va faire l'amour, manger, dormir, ça me suffit.
Non, bah pour moi. Si on quitte jamais le lit, je vais finir par m'ennuyer.
Ah ouais, d'accord. Donc ça y est, tu t'es lassé, déjà.
J'ai une passion pour ton corps, je crois que tu t'en es aperçu. Mais c'est pas la seule chose qui me plaît chez toi. J'aime aussi parler avec toi.
Ah oui, parler. D'accord, de quoi tu veux parler?
Mais enfin, sois pas si susceptible.
Non, non, mais tu veux parler. Alors vas-y, je t'écoute.
Tu préférais que je te dise qu'il y a ton cul qui m'intéresse?
Ouais, peut-être.
C'est charmant. J'imagine que c'est réciproque, je suis qu'un objet sexuel pour toi.
Non, j'ai pas dit ça. Mais contrairement à toi, je ne suis pas rassasiée.
Mais j'ai jamais dit que j'étais rassasiée.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, c'est peut-être pas étonnant, c'est 72 000 entrées en France seulement pour ce film. Alors, qui m'apparaît alors même un cliché du film français, c'est-à-dire que là, on a la maîtresse, on a l'amant, enfin...
Est-ce qu'il y a le cuisinier dans le placard?
Non, c'est un film de 2022. Alors là, c'est Melville Poupeau qui donne la réplique à Léa Seydoux, autre acteur merveilleux. Et c'est l'histoire d'une jeune mère qui s'occupe de son père malade tout en vivant une histoire d'amour passionnée entre deuil et désir, hein, Eros Thanatos. Elle tente de trouver un équilibre. C'est un film de Mia Hansen-Love et qui s'appelle Un beau matin. Voilà.
Allez, au bataillon.
On termine avec un nouvel extrait pour ce blind test consacré à la filmographie de Léa Seydoux. Il faut trouver le titre d'un film avec Vincent Lindon et il faut tenter de décrypter les mots de Vincent Lindon.
Si j'étais à Paris, je débrouillerais ces maudits au point.
Pourtant, lorsque je m'interroge sérieusement, je ne vois pas pourquoi je serais contre les Juifs. Car j'ai servi chez eux autrefois.
Les Juifs, c'est une sale race, c'est tout.
Est-elle vraiment plus sale que les autres? Au fond, je trouve que les Juifs et les catholiques, c'est tout un. Elles sont toutes aussi vicieuses. Tout cela, voyez-vous, c'est le même monde. La différence de religion n'y est pour rien.
Les Juifs, faut les massacrer. Faut les éventrer. Et laisser crever comme ça. Les tripes à l'air. C'est la seule solution.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans les studios. Peut-être que certains ont quand même vu ce film qui a fait 333 000 entrées en France. Donc, on entendait Vincent Lindon qui donne la réplique à Léa Seydoux. Film de 2015, quatrième adaptation du roman d'Octave Mirbeau. C'est Journal d'une femme de chambre. Eh oui. Au début du XXe siècle, en Normandie, Célestine est une jeune femme de chambre au service de la famille Lanlaire. Elle doit repousser les avances de monsieur et harcelée par madame. Et elle fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier, très antisémite, pour lequel elle éprouve une véritable fascination.
On va dire que le Buñuel est plus audible.
Oui, effectivement. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Léa Seydoux, qui joue donc, qui a ce petit rôle quand même dans le film Silent Friend, qui est en salle depuis le 1er avril. Un homme déterminé à récupérer l'héritage de sa mère entreprend d'éliminer un à un les membres de sa riche famille. Nous parlons de l'ultime héritier.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Un flingue sur la tempe. Tu ferais quoi, toi, avec un milliard de dollars ?
Pourquoi un flingue sur la tempe ?
Alors, s'il y a bien une chose que Rian Johnson a apportée au cinéma, c'est pas sa piètre contribution à la saga Star Wars avec les derniers Jedi, mais le renouveau du genre du murder and mystery cher à Agatha Christie, avec sa trilogie, bien meilleure que celle de Disney, des à couteau tiré. Et si on compte l'annonce d'une adaptation cinématographique à venir de Arabesque avec Jamie Lee Curtis, le genre est totalement revenu en grâce après le succès de la série Only Murders in the Building de Disney. Et c'est pile dans ces codes que s'inscrit l'ultime héritage ou How to Make a Killing en version originale. Alors réalisé par l'inconnu John Patton Ford, aucun lien de filiation, on va voir qu'on se retrouve en plein terrain connu, mais que c'est pas pour nous déplaire.
Dès ma naissance, ma mère m'a toujours dit qu'on était différents. C'est vrai, sa famille l'avait renié. Mais un jour, je deviendrai l'unique héritier. Des propriétés, des avions, d'une île ou deux.
Mais Kate,
putain, j'hallucine.
T'habites en ville maintenant ?
Oui, en ville, ouais.
Dans la périphérie.
Qu'est-ce qu'elle est devenue la fortune de la famille Redfellow ?
J'en hériterai.
Beckett Redfellow n'a qu'une obsession, se venger de la famille richissime qui a renié sa mère, coupable d'être tombée enceinte trop jeune, et surtout d'un homme beaucoup trop fauché pour eux. Elle était une étoile de la haute société en devenir, et sa malédiction fut de tomber amoureuse d'un jeune musicien qui ne survivra d'ailleurs pas à la naissance de son fils. Mais fière et surtout femme de conviction, et une âme bien mieux née que ceux qui se disent bien nés uniquement par leur porte-monnaie, elle va prendre un travail et élever sans jamais se plaindre cet enfant qu'elle aime. Lui inculquant les valeurs aristocratiques du mieux qu'elle le peut dans l'espoir qu'il soit à la fois bien éduqué, mais aussi un jour reconnu par les siens, elle contracte une maladie qui va la tuer avant l'heure. Elle fait promettre à Beckett sur son lit de mort qu'il doit récupérer l'héritage qu'elle estime lui revenir et qu'il n'a pas à se sentir moins digne que les autres de sa riche filiation. Alors si Beckett est un brave gars malgré ses aléas de la vie et qu'il grandit à l'ombre de petits boulots qui ne lui laissent que peu de reconnaissance et un sentiment de revanche grandissant, arrive le point de rupture où sa volonté de reprendre ce qui lui est dû devient plus forte. Le problème, c'est qu'en consultant son arbre généalogique, sept membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune. Qu'à cela ne tienne, pour mener à bien son projet, Beckett décide de la jouer aussi salement que ce que sa famille est capable de l'être et est enfin prêt à les éliminer un par un, jusqu'au dernier.
Il y en avait sept. Sept connards richissimes.
Quoi ?
Entre moi et 28 milliards de dollars.
Alors une histoire d'héritage, des aristocrates décadents et hautains, des prolos rangés par l'amertume, un manoir mystérieux, des meurtres, de l'humour noir trempé dans une louchée de cynisme. Alors si vous êtes un amateur de cinéma anglais et en particulier des studios Healing, il ne vous aura pas échappé que la trame de l'ultime héritier, loin de se cantonner au code précité des Murders and Mystery et d'Agatha Christie, c'est une reprise de celle du chef-d'œuvre absolu du genre Noblesse oblige. Dans le génial film de Robert Hammer, l'impérial allégorie Guinness voulait venger l'honneur de sa mère en reprenant le titre qui lui appartient et devait pour cela liquider les 9 autres prétendants dans l'ordre de succession. Pour ce faire, il endossait pas moins de 8 rôles différents, dont celui d'une femme. Alors certes, cette version américaine est beaucoup plus sage et Glenn Powell se contente d'un seul rôle, mais il n'empêche qu'il est idéal et crédible dans la peau de ce type qui a une lutte des classes à mener malgré lui. Glenn Powell a beau avoir la gueule du genre idéal texan, ce qu'il est assurément, il convient particulièrement bien au rôle entre prolo en colère et aristocrate démocrate du crime en construction. Alors habitué au rôle d'homme du peuple chez Richard Linklater, par trois fois d'ailleurs, il n'incarne au final qu'une version un peu plus fine mais néanmoins tout aussi vindicative du prolo Ben Richards qui voulait renverser tout un système dans l'ultra sympathique mais maladroite adaptation de Running Man de Stephen King par Edgar Wright sorti l'année dernière. Et si Powell incarnait en retour une représentation certes fantasmée mais néanmoins réelle des masses laborieuses sur les écrans d'Hollywood qui les ont complètement fait disparaître depuis 25 ans, ça serait bien parce que ça irait de pair avec une autre résurrection, celle du Murder and Mystery sur nos écrans. Alors c'est bien l'ultime héritier, mais j'avoue que plus ça va après des départs sur des chapeaux de roue, moins c'est satisfaisant malgré une fin qu'il fallait être amoral.
Eh bien, ce film est à voir en salle actuellement.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Alors Guillaume, la semaine prochaine, tu auras deux films.
Oui, alors grand écart, une comédie italienne avec Le Dernier pour la route et puis un film d'horreur avec Dolly.
Et puis nous reviendrons avec un blind test. À la semaine prochaine.